Nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 1. Ce matin, nous allons lire les versets 1 à 23. C'est la deuxième fois maintenant que nous abordons cet épître. Nous commençons une série d'études pour comprendre le message de Dieu à son peuple par l'apôtre. Verset 1 du chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité et celle de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et l'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, portant, parce que à l'origine c'est un participe, c'est un résultat de ce qui précède dans la prière, portant du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patient. Rendons grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il, Jésus, est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Ici, c'est le commencement de l'Église, de la nouvelle humanité. Le premier né d'entre les morts. Le premier humain glorifié au-delà de la mort. Le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a plu, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ceux qui sont sur la terre que ceux qui sont dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant, réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Une petite introduction, vous vous rappelez, je ne vais pas revenir là-dessus, cette église à Colosse est en proie à des faux enseignements, un peu mystiques, en se vendant des visions un peu juifs. On recommande qu'il faut garder toujours les rituels, alors que ces rituels sont caducs, un peu ascétiques, parce qu'on dit que pour parvenir à certaines expériences spirituelles, il faut se faire mal au corps, ne touchez pas, ne mangez pas, ne goûtez pas, ainsi de suite. Et Paul écrit, ayant entendu parler de ces problèmes de la part d'Épaphras qui arrive de Colosse jusqu'à la prison en Rome où il est confiné. Et nous avons vu la semaine passée tout simplement que dans les versets 3 à 5, Paul se réjouit que dans la ville de Colosse, en Turquie aujourd'hui, il y a des gens qui sont véritablement chrétiens. Et il le sait parce qu'il a entendu verset 3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de trois vraies marques d'un chrétien chez vous, de votre foi en Christ Jésus, de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. La foi, l'amour, l'espérance. Dans la théologie chrétienne, on les appelle les trois vertus cardinaux. Et nous avons essayé de comprendre comment tout chrétien véritable vit de cette foi-là en Christ, de cet amour pour tous les saints et de cette espérance. Mais je vais aller jusqu'au verset 21 aujourd'hui. On va revenir pour prendre les versets avant, mais je vais nouer la gerbe avant de voir la gerbe. D'accord? Parce que je veux vous montrer que Paul a dit quelque chose au verset 5 qu'il va redire à peu près dans le verset 23 et ça rejoint notre discussion de la semaine passée. Qui est le vrai chrétien? Quelle est sa marque? Donc, je relis le verset 5. Regardez bien le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Donc, retenez ces deux idées. L'évangile est un évangile qui est en train de porter du fruit, d'aller dans le monde entier et qui crée une espérance d'un salut éternel. Maintenant, lisez le verset 23. Il finit sa discussion du salut et il dit au verset, enfin, on va le prendre au verset 22. Il dit, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, voilà cette marque du chrétien encore, la foi, si vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance, voilà l'espérance encore, de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature. Encore, il dit, c'est un évangile qui est en train d'être prêché dans le monde entier. Donc, il noue ainsi la gerbe, un évangile qui se prêche et qui change le monde entier, vous a changé, et notamment en vous donnant la foi, l'amour et l'espérance. Mais, ici, dans les versets 22 et 23, il va préciser une chose sur le caractère de la vraie foi que nous n'avons pas vue le dimanche passé, et c'est que la foi qui sauve est une foi persévérante. Si vous demeurez, si vous continuez dans la foi. Ok, nous voulons donc essayer de comprendre ces versets 22 et 23 aujourd'hui. Extrêmement important en tant que pasteur depuis des décennies, il y a une chose que j'ai vue constamment, et c'est que beaucoup croient, mais tous ne croient pas d'une manière endurante. Premier point, et j'ai cinq points aujourd'hui tirés de ce passage. Premier point. Seule une foi qui persévère à croire jusqu'au bout est une foi salvatrice. Il existe une sorte de foi en Jésus-Christ, dit le Nouveau Testament, qui ne sauve personne qu'il a. Une foi en Jésus-Christ. Il existe une sorte de foi en Jésus-Christ qui bouleverse la vie, qui amène les gens à l'Église, qui les amène à croire qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sauve pas. Nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens 15, écoutez bien, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il y a une foi qui croit en vain. Maintenant, écoutez bien parce que nous allons affiner cela et les deux passages que je vais vous lire maintenant sont encore plus importants. Je suis en train de vous dire que seule une foi persévérante est une foi salvatrice et qu'il existe une foi qui n'est pas salvatrice. À aucun moment, ni au début, ni à la fin. D'accord? Écoutez bien. Mes frères, que sert-il à un homme, à quelqu'un, Jacques chapitre 2, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi-là peut-elle le sauver? Sous-entendu, non. Donc, il existe une foi qui ne peut pas sauver. C'est une foi qui ne produit pas une vie des œuvres persévérantes. Cette foi-là. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Jean chapitre 2, les versets 23 à 25. Écoutez vraiment bien parce que ce passage est clé. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Vous avez remarqué? Ces gens sont au début d'une expérience de foi. Ils viennent de croire. Voyant ces miracles, et Jésus ne se fie pas à eux. Et le mot fier, se fier, c'est le même mot en grec que le mot croire. Ils ont cru en Jésus, mais Jésus n'a pas cru en eux. Il n'a pas cru en leur foi. Je lis le reste du passage. Plusieurs crurent en son nom, plusieurs, pas un ou deux, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait. Tous. C'est-à-dire, sa méfiance n'est pas mal placée. Sa méfiance est juste. Parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire, la tendance même à créer des contrefaçons d'une foi salvatrice. Une foi qui est égoïste. Une foi qui croit à Jésus pour ses miracles, mais une foi qui ne s'incline devant lui. Ok. Nous avons vu, ok, il existe une sorte de foi qui n'est pas salvatrice, que Jésus lui-même ne reconnaît pas comme une vraie foi. Ensuite, je suis toujours dans le premier point de mon sermon, hein, soyez patients. Le premier point, c'est que seule une foi persévérante sauve. Maintenant, je veux vous dire, je veux vous appuyer le fait que la caractéristique qui démarque la foi contrefaçon, c'est que ce n'est pas une foi endurante et persévérante. Je vous lis un passage que vous connaissez bien. Vous connaissez la parabole des sols? La semence qui représente la parole tombe dans quatre sols différents. Combien de ces sols produisent une plante qui porte du fruit? Une seule. D'accord? Un seul sol. Les trois autres, non. Et voilà ce que Jésus dit au sujet d'un de ces sols qui n'est pas bon. Écoutez bien. Ceux qui sont sur le roc Ceux qui tombaient dans la terre rocailleuse, si vous voulez, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Nous, on les aurait baptisés tout de suite. Ah, c'est des convertis. Ils croient avec joie. Ils ont reçu avec joie, mais ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire, il leur manque quelque chose dès le début. Pas plus loin, mais dès le début. Ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Vous voyez? La caractéristique d'une foi sans racines, c'est que c'est pour un temps. Et il dit, ils succombent au moment de la tentation. Or, ceux qui tombaient dans la bonne terre, Jésus dit, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, la marque de la vraie foi. Une foi qui croit pour un temps et une foi qui persévère et continue à croire. Donc, la caractéristique d'une foi fausse dès le début, c'est que plus tard, il s'arrête. Je dois vous dire une chose de plus au sujet de ce premier point avant d'avancer dans le message. Nous sommes en train de prouver que seule une foi persévérante est une foi salvatrice. Et cette troisième chose que je veux vous dire, c'est que comme cette foi dès le début est une contrefaçon, Jésus ne se fie pas dès le début à cette foi. Elle ne met jamais la personne qui la possède dans un état de grâce ou de salut avec Dieu, même au début. Ce n'est pas que la personne a été sauvée dans un état de grâce, et plutôt il perd cet état de grâce et ce salut. Le Nouveau Testament, toujours en parlant de cette foi, contrefaçon, indique que dès le début, elle est fausse et ne produit pas une personne sauvée. Écoutez bien, je vous le montre. D'abord, je vous le montre dans notre texte en Colossiens 1. Et il faut que quand vous lisiez la Bible, vous faites très attention aux détails, parce que la parole est inspirée même dans les temps des verbes. Écoutez bien, verset 22. Il vous a maintenant, c'est le mot-clé, maintenant, il vous a maintenant réconcilié par sa mort, verset 23, si vraiment vous demeurez dans la foi. Qu'est-ce qui vous paraît bizarre dans cela? Il vous a maintenant réconcilié, le présent, si dans le futur vous demeurez dans la foi. Paul est en train d'affirmer quelque chose au sujet, non pas de leur salut futur. Est-ce que vous allez rester des gens sauvés dans le futur? C'est pas ça qu'il dit. Il est en train d'affirmer quelque chose au sujet de leur salut actuel. Il vous a maintenant réconcilié, c'est-à-dire maintenant vous êtes sauvés, si plus tard je vous trouve toujours en train de croire. Sinon, dans le maintenant, vous n'êtes pas réconcilié. Il vous a maintenant réconcilié si ton salut et ta foi sont authentiques maintenant, si dans le futur, elles sont toujours là. Vous voyez la logique de Paul? Il y a une sorte d'acier qui s'appelle l'acier tungstène. Vous avez entendu parler de tungstène? Le tungstène est un élément dans notre tableau d'éléments chimiques, d'accord? Et c'est l'élément naturel, la molécule naturelle, qui supporte le plus de chaleur, plus que n'importe quel élément naturel que nous avons. Ça ne fusionne qu'à partir de 3500 degrés, à peu près. Alors, on l'a découvert, je crois que c'était un Suédois qui l'a découvert, Et au fil du temps, on a commencé à allier le tungstène dans l'acier pour produire un acier qui est extrêmement renforcé et qui supporte des températures très très hautes. Et vous savez que si vous avez un forêt pour votre perceuse, il y a de grandes chances que ce soit de l'acier tungstène. D'accord? Maintenant, supposez que je veux savoir si une barre d'acier est une barre d'acier tungstène. Donc, je vais le soumettre à un test. On va chauffer une fournaise bien au-delà de la température où l'acier normal commence à fondre, où la barre va commencer à se tordre. Je mets la barre là-dedans et je dis à cette barre d'acier, tu es une barre d'acier tungstène si dans 10 minutes, dans cette fournaise, tu n'es pas tordu. Maintenant, écoutez bien. Je n'ai pas dit que à force de rester intègre, tu deviendras de l'acier tungstène. C'est pas la persévérance qui fait de ta foi une foi authentique. C'est la persévérance qui révèle si ta foi a été authentique au début. Et par ce test, si je dis tu es maintenant tungstène, si tu demeures intègre, vous voyez ce que je suis en train d'affirmer? Je veux savoir le caractère qui a toujours été celui de cette barre d'acier. C'est pour cela que le Nouveau Testament, en parlant de ceux qui semblent avoir la foi véritable, mais qui n'arrivent pas au paradis, le Nouveau Testament nous indique toujours que ces personnes n'ont jamais été de vrais croyants. Écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs. Vous êtes avertis? Plusieurs, beaucoup, beaucoup me diront en ce jour-là, le jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment où vous étiez un chrétien authentique. Un des miens. Donc le Nouveau Testament dit toujours au sujet de celui qui a une foi, mais n'arrive pas au paradis, qui n'a jamais eu la foi véritable. 1 Jean 2. Ils sont sortis du milieu de nous, de l'Église, ils sont sortis, mais ils n'étaient pas des nôtres. Imparfait, ils n'étaient pas. Il n'a pas dit ils ne sont plus des nôtres dès qu'ils sortent, ils ne sont plus. Ils n'étaient pas des nôtres au moment où ils étaient avec nous. Ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Demeurés, persévérés, continués. C'est la marque d'une foi véritable. Ce point était très long, on va aller plus rapidement maintenant. Deuxième point du sermon. Nous avons vu que seule une foi persévérante est une foi salvatrice et donc authentique. Deuxième point, c'est que jusqu'au retour de Jésus, l'Église visible sera composée de vrais convertis possédant une vraie foi et faux convertis qui ont une fausse foi. Ne vous attendez pas à un moment où il n'y a pas dans votre Église locale des gens qui ne tiennent pas. Des gens que vous ne voyez plus, ou des gens qui sont là, mais qui n'ont plus la même, vraiment dans le cœur, le même attachement au Seigneur. Paul doit écrire à Colosse, il doit écrire à l'Église, et il doit dire, vous êtes maintenant réconciliés si vous demeurez dans la foi. Pourquoi est-ce qu'il doit écrire comme ça? Parce qu'il sait ce que. Il connaît le deuxième point de mon sermon. Il sait que l'Église visible va toujours être composée de vrais croyants et de faux croyants. Il doit dire ça à toutes ces églises. Vous pensez à une autre, vous pouvez trouver une autre fois, il doit parler ainsi à une église. Moi, je pense toujours aux Corinthiens. Il dit en 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il parle aux chrétiens, dans ceux qui se disent chrétiens dans l'église. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc Paul fait ça couramment avec toutes les églises, et c'est pourquoi je le fais aujourd'hui avec vous. Je me souviens d'une dame, femme de diacre dans mon église, dans un autre pays, très fidèle, très bonne chanteuse, et puis 20 ans après le début de cette église dont elle était membre fondateur, elle réalise qu'elle n'est pas vraiment convertie et elle se convertit. Et sa vie est changée. La différence, donc nous sommes en train de dire dans ce deuxième point que dans l'église visible, il y aura toujours jusqu'au retour de Jésus des gens avec une vraie foi et une fausse foi. Et ce n'est pas visible pour nous. Moi, je ne peux pas vous dire. J'ai pas un radar dans la tête du pasteur qui dit, ah, je vois sur ton front foi authentique et là je vois fausse foi sur ton front. Non, nous ne pouvons pas. Il faut attendre, comme dans le sol des paraboles, pour voir si le fruit que porte à la longue. Et dans la parabole des 10 vierges que Timo vous a lu, il y a 10 vierges, elles sont toutes ensemble. Elles ont toutes une lampe, elles ont toutes de l'huile. Moi, je ne peux pas les distinguer jusqu'au moment où on entend le cri que l'époux arrive, n'est-ce pas? Et c'est l'arrivée de l'époux qui déclenche cette découverte que certains n'ont pas ce que d'autres ont. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura ce tri, cette découverte. Mais Paul le dit maintenant parce que, et c'est notre troisième point, le Seigneur nous avertit de la possibilité d'une fausse conversion et foi afin que nous nous en rendions compte maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez vous examiner. Vous examiner, c'est la seule manière de vous en rendre compte. C'est un avertissement. Vous êtes maintenant réconcilié si vous continuez dans la foi. Comment est-ce que moi je l'ai vu? Parfois, au fil des années, certains viennent moins à l'église, encore moins à l'église et plus à l'église. Et je veux vous dire une chose très solennellement. Quelqu'un qui ne le trouve pas assez important d'être avec le peuple de Dieu sur terre montre qui n'appartiendra pas au peuple de Dieu au ciel. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de plus sûr. Si l'église de Jésus-Christ est la rencontre de Christ avec son peuple, mais pas assez important pour toi sur la terre même, ne pensez pas qu'il vous veut au ciel. Je vous le dis très solennellement. Ce n'est pas pour que vous commenciez à venir à l'église, c'est pour que vous examiniez votre cœur et qu'il y ait une profonde repentance et une vraie conversion. D'autres, ce n'est pas qu'ils s'arrêtent de venir à l'église, ils sont là comme les cinq vierges folles, avec leurs lampes et leurs petites huiles. Mais Extérieurement, ils sont là. Le corps est là. N'est-ce pas? Mais il n'y a plus de vie spirituelle véritable avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas d'ardent désir, il n'y a rien, sauf le dehors. Ça se passe comme ça parfois. Et un effort de se convaincre qu'on est toujours dedans. Vous êtes maintenant réconciliés si vous continuez dans la foi sans être bougé de là. Dernier point du sermon. Quelle est la déficience mortelle dans la foi qui ne souffre pas? Où est-ce qu'elle est défaillante, cette foi-là? Le Nouveau Testament nous donne plus d'une réponse. Je vais juste vous donner quelques pistes. La première piste vient de la parabole des sols. Et vous avez remarqué que la différence entre les sols, chaque sol représente un quoi? Un cœur. Cela est clair. Parce que la parole est implantée dans le cœur et dans la parabole, Jésus dit ceci, ceux qui tombaient dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon. D'accord? Le problème avec les trois autres sols, c'est la condition du cœur. La condition du cœur est mauvaise. La personne croit avec un cœur égoïste, un cœur qui n'est pas changé, qui n'est pas né de nouveau, un cœur irrégénéré, un cœur dépravé. Et vous savez que vous pouvez croire et être bouleversé par l'évangile avec un cœur égoïste. Et il y a même des évangélistes qui font appel à votre égoïsme pour vous faire venir à Jésus-Christ. C'est le point de leur appel. Venez à Jésus et vous aurez la vie abondante. Et comme mon égoïsme veut ça, si c'est le seul point d'appel, en tant qu'égoïste, déçu de tout ce que j'ai eu jusqu'ici du monde, je vois ça et je dis, il m'aime, moi qui suis vraiment qu'on doit aimer, qui suis tellement... ont besoin d'amour, Dieu m'aime, et il va me sauver, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Tout cela va dans le sens de mon égoïsme. Et c'est pour l'éternité. D'accord. Donc il y a des choses que je crois dans l'éternité, je crois que Dieu est là, je crois que Christ est le Fils de Dieu, mais le problème c'est qu'il y a quelque chose de déficient. C'est que je crois tout cela d'un point de vue, d'un point de référence qui est complètement égoïste. Je veux Jésus pour ce qu'il peut faire pour moi. Ça veut dire que la nature même du péché n'a pas été brisée. Il est indemne. Car le principe du péché, c'est que je vis à partir de moi. Alors que quand l'évangile vient d'une manière salvatrice vers quelqu'un, il entend aussi une autre note de la musique. Et cette note dit, je suis le Seigneur, glorieux, tellement digne, tellement, tellement digne, que vous devez maintenant venir à moi pour moi. Pas simplement pour vous, ce que vous allez avoir, mais je suis tellement digne, je t'ai fait, je t'ai racheté. Viens maintenant à moi, non pas pour ce que je serai pour toi, mais pour ce que tu dois être pour moi. Alors là, c'est autre chose. Je crois en Christ, non seulement en tant que quelqu'un qui peut faire telle chose pour moi, mais je crois en lui en tant que Dieu qui est qui est lui la raison d'être. Lui plus important que moi. Et que je ne peux que venir à lui et me déposer à ses pieds et dire, la vie ne peut pas tourner autour de moi. La vie tourne autour de toi. Je le crois. Donc, je suis à toi. Romains, chapitre 14, le dit comme ceci, et je finis ainsi. J'avais pas prévu, mais je pense que c'est. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul de nous ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons, si nous sommes vraiment convertis, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur, car Christ est mort et il est revenu. Écoutez bien, Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Pas seulement ma manière d'arriver à ce que je veux, mais le Seigneur, je deviens le moyen pour qu'il arrive à ce qu'il veut. C'est ça la conversion. Que je crois que Christ est cette sorte de Seigneur, que je ne suis que sa propriété, son instrument. Et je suis content qu'il en soit ainsi, car il est tellement digne. En fait, il est l'image visible du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui, ça, je crois. Et ça crée une foi persévérante. Nous allons chanter. Le numéro 40 dans le carnet.